بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. Alors mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre après une longue période d'interruption, donc le tafsir de Surat al-Ghashiyah. La semaine dernière, il y a deux semaines, donc on avait une intervention à faire à Saint-Pierre pour un jeune élève de 15 ans qui complétait son hifz al-Qur'an. Et la semaine dernière, on voulait faire le tafsir, mais on a vu avec les responsables. Donc ils ont dit, par rapport aux circonstances exceptionnelles, la visite de l'équipe de France, France-Chine, on nous a dit que donc il n'y aurait personne, donc vaut mieux ne pas faire de programme. C'était un peu à contre-cœur, on aurait souhaité ne pas donner priorité à un match de football sur un code de tafsir, mais sachant que bon, c'est quelque chose de suivi, hein, c'est des versets du Coran qui se suivent, et donc si quelqu'un a commencé à suivre les commentaires et qu'il va louper quelques, ne serait-ce qu'une séance, il va louper 3-4 versets, il aura du mal à suivre le reste des versets. Donc on a préféré ne pas faire la semaine dernière. Et donc ce soir, vous voyez l'ambiance, c'est une ambiance de masjid Coupe du Monde, Allah musta'an. Il est désolant de constater que ben, certainement dans les jours à venir, le nombre de moussalli va diminuer s'il y aura des matchs. Donc, moi, j'ai à l'avance étudié tous les matchs de l'équipe de France. J'ai regardé le planning avec le décalage horaire. Alhamdulillah, la plupart des matchs se joueront à 22h30. Mais malheureusement, le deuxième match va se jouer à 18h. Alors, Allah musta'an, si une personne a dans son cœur l'amour pour Allah, l'amour pour son prophète, j'espère que la personne ne sacrifiera pas son salat ou le maghrib en jamad pour l'accomplissement, pour le fait de regarder le début du match. La salat en ce moment est à 6h moins 20, moins 15. Donc si vraiment une personne est passionnée, elle a envie de regarder, mais ne serait-ce. Ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, mes chers frères. Il est possible que nous ayons dans nos cœurs des faiblesses, nous aimons regarder telle chose, tant qu'on est dans le licite, même s'il y a divergence d'opinion sur le fait de regarder ou de ne pas regarder, on ne va pas rentrer dans ces masses-là, mais si vraiment une personne a une attirance pour ce genre de manifestation, et c'est quelqu'un qui se dit que je ne fais rien d'illicite dans ma vie, hein, je ne vais pas en boîte, je ne traîne pas dans la rue, je ne fais pas de bêtises, donc ça c'est une chose qui me permet de changer un peu mes idées, allez, on va considérer que la personne considère cela comme son loisir, d'accord? Mais en aucun cas, ça c'est vraiment un message très fort qu'il faut qu'on retienne, ne faisons jamais passer quelque chose de mondain sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas. Une personne peut, par exemple comme ce soir, réunion, regarder le match à 22h30. Mais il ne faut pas, parce que la personne va regarder le match qui se terminera à minuit, minuit 15, je ne sais pas, il ne faut pas que la personne, à cause de ça, va rater la salat al-fajr le lendemain. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est intolérable. Il y a des gens qui peuvent dormir 1h, 2h du matin, se réveiller fajr. Il y a des gens qui peuvent. 3h de sommeil, c'est suffisant pour eux. Mais si une personne sait, elle sait expressément que si je me couche à minuit, je ne peux pas me réveiller fajr. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont besoin de 8 heures, 9 heures de sommeil. S'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas se réveiller. Dans ce cas, pour cette personne, si elle sait que je me couche à minuit et obligatoirement demain je rate le fajr, c'est un fajr raté de manière préméditée. Et là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Donc, comme on a dit, on le résume, si quelqu'un vraiment a cette passion, khair, mais en aucun cas faire passer un match ou n'importe quelle chose mondain sur une salat ou sur une obéissance d'Allah. Imaginez que demain c'était le bac. Imaginez qu'un étudiant passe sa première épreuve demain matin à 8h et que le match se termine à minuit et demi, d'accord? Je ne pense pas que cet étudiant serait assez inconscient pour regarder un match jusqu'à minuit et demi, sachant que demain il a la première épreuve du bac. Parce que dans son cœur, il sait c'est quoi le bac. Il sait comment je le prépare, quelle est l'importance, quelles seront les conséquences si j'ai des points en moins ou si je rate une épreuve ou je ne suis pas en forme pour la première épreuve. Donc elle ne sacrifiera pas son bac pour un match. Donc pareil, enfin pas pareil, pire encore, pour la salat de Fajr ou la salat mieux encore accomplie en congrégation en jamaat, ne jamais faire passer quelque chose qui pourrait nous priver de cette chose. Et on faisait ce rappel il y a quelque temps, quand il y avait cette euphorie autour de la venue de l'équipe de France, donc à La Réunion, lorsque les gens étaient partis dormir une nuit dans le parking des supermarchés de différents coins de l'île pour acheter un billet pour regarder le match France-Chine. Dans le reportage, on a même vu des musulmans qui étaient là-bas depuis je ne sais pas quelle heure jusqu'au lendemain. Jusqu'à l'ouverture des guichets, je ne sais pas 7h30, 8h, je ne sais pas quelle heure ils ont ouvert. Et je me posais la question, la personne qui y va depuis 22h le soir, jusqu'à le lendemain, d'accord? Comment est-ce que cette personne fait sa salatul fajr? Expliquez-moi. Si la personne a le degré de iman suffisant pour mettre un musalla sur le parking et faire son fajr, hein, je lui tiens mon chapeau, mon bonnet. C'est formidable. Mais si à cause de cela, à cause de ce match, l'envie d'acheter un billet, la personne délibérément va rater un salat, une prière, alors là, mes chers frères, ça c'est extrêmement grave. C'est pas comme si que je me suis couché, j'ai travaillé jusqu'à 23h et je me suis réveillé tard. J'ai mis mon réveil, mais j'ai pas entendu, j'étais trop fatigué. On a espoir qu'Allah nous pardonne. Parce que mon niyat était de me réveiller pour la salat al-fajr. J'ai pris mes précautions, j'ai mis mon réveil et tout. Mais, qadar Allah, mon sommeil était tellement profond, j'étais trop fatigué, je ne me suis pas réveillé. Ça, c'est un cas de figure, c'est la faiblesse humaine. Allah peut pardonner, Inch'Allah, et Allah pardonne. Mais dans l'autre cas où une personne, volontairement, il se dit que je vais faire la queue pour acheter le billet, et volontairement, je vais rater mon fajab, alors mes chers frères, ça c'est extrêmement grave. Vraiment, ça c'est, je ne trouve pas de mots pour qualifier ce genre d'attitude. Et j'en parlais à certaines personnes, je dis, mais quel genre de sacrifice vous êtes prêt à faire pour ça? Adjib ça, moi je ne comprends pas. Je dis que moi je peux sacrifier une nuit, dormir sur un parking, sur le bitume, mais dans un seul cas de figure. Si vous me dites qu'on va au hajj, on dort à Muzdalifa. Là je suis d'accord. Là je dors sur le galet, dans la terre, je dors sur le bitume, je dors où vous voulez. Mais si c'est pour le contentement d'Allah, l'ordre d'Allah de dormir à Al-Mabid bi Muzdalifa, là d'accord. Là, ça vaut ce sacrifice. Pour ceux qui ont fait hajj ensemble, ça vaut le sacrifice. Avec le froid, avec les gens qui passent, vous ne pouvez pas dormir, le lendemain, vous êtes fatigué. Mais ça, c'est pour le din. Mais pour le dunya, non, non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'Allah nous a envoyés sur la terre, nous ait donné ces ni'amas de la santé, hein, la capacité intellectuelle, hein, et la force physique, les moyens financiers, pour consacrer toute cette énergie et ces facultés dans des choses aussi futiles. Différence entre quelqu'un qui va allumer son poste, regarder un instant, et celui qui va faire tout ce sacrifice. Ça n'en vaut pas la chandelle. Alhamdulillah, ils ont perdu d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, regardez, j'écoute la radio depuis Maghrib, en sortant de la madrasa. J'écoute sur toutes les chaînes, on ne parle que de ça. Toutes les fréquences. Le match. On interroge les gens. Et j'ai lu un statut d'un jeune sur Facebook tout à l'heure. Il dit que on oublie nos soucis, c'est parti pour un mois de bonheur. Hajib, un mois de bonheur. Ses soucis doivent être vraiment minimes. Ce jeune, il doit vraiment avoir des soucis vraiment insignifiants pour qu'une Coupe du Monde lui permette d'oublier tous ses problèmes. Peut-être qu'on est adulte, on a plus de problèmes. D'accord? On peut se divertir à part ça, mais ça n'efface pas nos problèmes. Ça, c'est un vieux proverbe romain. Donnez au peuple du pain et des jeux, et ils vont vous laisser faire ce que vous voulez. Allah musta'an. Le pain, on donne. Il y a les allocations, il y a tout. Les gens ne meurent pas de faim ici. Les jeux, vous en voulez, en voilà. Donnez à la population des jeux, ils vont tout oublier. Ils vont oublier la crise. Ils vont oublier l'euro qui est en train de chuter, qui peut-être, je ne sais pas dans combien de temps notre monnaie vaudra encore quelque chose, ce n'est pas le sujet. Ils vont oublier différents problèmes qui touchent nos frères musulmans dans différentes parties du monde. Ces mêmes problèmes qui ont touché chacun parmi nous il y a quelque temps de cela. Tous les médias en parlaient. Chaque musulman, il avait ça sur le bout de la langue. Oui, comment est-ce qu'on peut laisser des gens, etc., etc. On ne va pas aborder le sujet. Maintenant que la Coupe du Monde commence, déjà quand la France est arrivée à La Réunion, personne n'en parlait. Les radios locaux, ils ne parlaient que de l'équipe de France. Ils ne parlaient pas de ces gens qui se font massacrer, tous ces machins, et ces problèmes de le monde, etc., etc., des injustices. Donner des jeux au peuple, il oublie tous les problèmes. Allah musta'an. Et quand on voit l'effervescence qu'il y a autour de cet événement, moi, je le dis, c'est disproportionné. C'est démesuré. Alors, ce jeune qui écrit, on oublie les soucis pendant un mois, Allah musta'an. Hein, on est loin du fikar, le souci que chaque personne doit avoir, c'est le souci de la guider pour son prochain.
Peut-être je ne l'ai pas, je l'ai un poisson, d'autres ils en ont plus, d'accord? Mais un musulman ne peut pas se dire parce qu'il y a tel événement, j'oublie tout et je vis un mois de bonheur. C'est pas possible. Notre vie, mes chers frères, ne se résume pas à ça. Je crains même qu'il y ait des gens qui vivent que pour ça. Sachant que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. La Coupe d'Europe, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est tous les 2 ans, il y a quelque chose. Quand c'est fini, quand une Coupe du Monde est finie, quelques mois après, il y a les éliminatoires pour la Coupe d'Europe. Donc, il y a peut-être des gens qui vivent pour ça. Allah Moustan. Il y a des gens qui vivent pour le football. Ils parlent du football. Ils s'habillent en football. Ils dorment, ils rêvent football. S'ils pouvaient manger des ballons, ils auraient mangé des ballons aussi. Mais moi, ça me fait mal au cœur ça, de voir ça. Cette jeunesse qui gaspille son temps, son énergie, sa concentration, son attention, uniquement... Moi, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est quand je sors de Maghreb, Masjid en ville, je vois tous les petits arabes, tous les petits, hein, ils sont à côté de Masjid en train de s'échanger les vignettes panini de tel joueur. À une époque, on avait ça, mais on collectionnait les schtroums, on collectionnait d'autres choses. Mais ça, il n'y avait pas trop, c'est vrai. Mais, subhanallah, une telle fièvre, je l'ai même vu. Wallahi l'azim. Il y en a même qui font des listes. La liste des joueurs qui les manquent. De nos jours, les ulama disent qu'il faut faire la liste des péchés qu'on fait dans la journée pour essayer de trouver une solution, comment remédier à ces problèmes. Et là, ils font des listes. J'ai tel joueur, quand ils ont eu un, ils débouchent, ils ont eu un, ils rayent, etc. Et celui qui a rempli son livre panini, c'est comme s'il a fait un khatm al-Qur'an. Peut-être qu'il va faire doigt quand le livre panini, dernière étiquette, il va faire doigt. A'oudhubillah. Franchement, ça c'est désolant. Il y a, on ne va pas être hypocrite, hein, on peut aimer, d'accord? Il y a celui qui allume son poste, qui regarde, et quand c'est fini, il éteint, et sa vie continue, il fait son ibadat, d'accord. Et puis il y a celui qui vit pour ça. Et lorsque le jour de Qiyamah, le Prophète dit que personne ne quittera le mawqi' al-hisab, l'endroit où les comptes seront exigés de chaque personne, sans répondre à 5 questions. Parmi ces questions, qu'est-ce que vous avez fait de votre jeunesse? Qu'avez-vous fait de votre temps? C'est pour ça que je comprends, je finis par comprendre quand certains savants disent que, et moi j'en ai entendu des savants qui disent que le regarder les matchs est haram carrément. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est un aspirateur de temps. On n'est pas dans ce dunya pour s'amuser. Notre fikr, c'est progresser dans la religion, augmenter notre degré de foi, faire passer ce message de foi aux autres pour que lorsque Malik al-Maud reprenne mon âme, il reprenne mon âme de la meilleure des circonstances et je me présente auprès d'Allah avec le livret de bonne action rempli, le livret de péché vide. Ça, c'est l'objectif du musulman. Qu'Allah est content de moi, j'entre au paradis et je suis proche d'Allah pour l'éternité. Ça, c'est l'objectif du musulman. Et pour cela, on a un temps prédéfini. 60 ans, 75 ans, 30 ans, 20 ans, Wallahu a'lam. Et lorsque Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, était malade, et on lui disait, il soupirait. Soupirait, il faisait, ah, hein, il soupirait. On lui dit, ya Imam, Imam Ahmad, vous savez que les malaïkas écrivent ses soupirs aussi. Et on sait que le jour de Qiyamah, les bonnes paroles sont comptées comme bonnes actions, les mauvaises paroles comme mauvaises actions, et les paroles neutres sont effacées. Lorsqu'Imam Ahmad a entendu ce rappel, il a arrêté de soupirer immédiatement. Il a arrêté de soupirer. Quelle relation? C'est-à-dire que les ulama à l'époque, ils savaient qu'une parole, c'est une parole qui compte. Une seconde, c'est une seconde qui compte. J'ai un livre à la maison, subhanallah, un jour peut-être qu'on aura l'occasion de le lire, hein, Qimatuz Zaman Inda al-Ulama. L'importance du temps chez les savants. Pas chez nous, hein, nous c'est des savants, enseigne-nous. Les vrais savants, les vrais mashaïfs, les vrais ulama. Regardez Abu Hanifa, regardez Shafi, regardez Imam Ahmad, Imam Malik, regardez Imam Bukhari, Imam Muslim. Ça c'est les piliers de la science. Nous on est des. C'est un peu raciste, c'est les fans de série, nous, Wallah Moustan, d'accord? Les vrais savants, ils ne perdaient pas une seconde pour les futilités, ce genre de choses. D'accord? Donc mes chers frères, c'est un petit rappel pour moi-même en premier. Peut-être que je suis plus amateur que vous, je ne sais pas. Mais un rappel que c'est un événement, d'accord? Si quelqu'un vraiment a envie de regarder, mais en aucun cas faire passer quelque chose de dunya sur quelque chose de dîn. Ça, jamais de la vie. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous protège. Et donc, de la même manière, mais maintenant par analogie, quand on voit ces savants qui disent que c'est haram, pourquoi ils disent ça? Parce que ça vous prend trop de temps. Mais ces mêmes savants-là, s'ils voyaient qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les PSP, avec les iPads, avec tous ces trucs-là, quand on voit des jeunes et quand on voit des reportages des personnes qui sont au chômage, je viens au reportage une fois, j'ai rarement l'occasion de voir, mais quand je vois, ben, souvent c'est des choses profitables, donc on en parle. Une personne qui est au chômage, ne travaille pas, il touche les RMI en métropole, hein, d'accord? Et sa femme se plaint, du matin jusqu'au soir, mon mari sur ordinateur, il joue des jeux en ligne. Alhamdoulilah. C'est un jeune en bonne santé. Il a tous les ni'amat qu'un être humain peut espérer. La santé, faculté mentale, tout ce qu'il faut. Et il passe, quand il se lève le matin, un musulman bien sûr, après son petit-déj, il se connecte, il s'arrête pour manger, sa femme fait les courses et tout, il se reconnecte l'après-midi jusqu'au soir, et le soir il dort. C'est quoi cette vie-là, mes chers frères? Vraiment, ça c'est quelqu'un qui est tombé dans le piège de Shaitan. Vous savez, c'est Shaitan. Il ne peut pas vous faire faire des péchés. Shaitan, la première étape, c'est quoi? Il essaie de vous faire accomplir des péchés. Mais s'il n'arrive pas à ses fins, s'il a pu vous empêcher de faire des bonnes actions, c'est déjà quelque chose de gagné pour lui. Un exemple, hein, c'est aucun rapport, un match de 90 minutes, d'accord, pour rester dans, avec cette histoire-là. Un match de 90 minutes, d'accord, vous avez une équipe très forte, une équipe très faible. J'ai dit une équipe très forte comme la France, mais ce n'est pas le cas. Et en face, une équipe très faible, d'accord. Si un cas de figure qui fait qu'on peut bloquer le ballon peut être bloqué et le compteur tourne. L'équipe adverse est contente parce que l'équipe en face, même s'il ne manque pas de but, mais il perd du temps. C'est une métaphore pour qu'on comprenne. Pareil, si Shaitan peut nous faire perdre du temps. Là, ce soir, il va bloquer certains une heure et demie devant la télé. D'accord? Et s'il peut cumuler ces une heure et demie, une heure et demie, une heure et demie, pour lui, c'est au moins deux jours. Si quelqu'un regarde tous les matchs, ça peut aller jusqu'à deux jours. 48 heures de matchs d'affilée, si on cumule. 48 heures sans faire ibadat. Je ne pense pas que quelqu'un regarde le match en faisant des kurullah. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, comprenons, mes chers frères, qu'il faut une certaine cohérence dans ce qu'on fait. D'accord? Ne pas considérer ça comme la chose la plus importante. C'est une futilité. Si nous aimons ces futilités, c'est notre faiblesse. Cela nous concerne personnellement. Mais en aucun cas, ne pas consacrer l'essentiel de son attention et de son temps sur ce genre de choses. Et je regardais un reportage il y a quelques jours, j'ai vu 10 minutes, m'expliquer qu'en France, un joueur professionnel de football, son salaire moyen, je ne parle pas des grands joueurs, le salaire moyen est de 98 000 euros par mois. Basse. Écoutez ça. Et vous comprenez quelles sont les valeurs de notre société. Dans notre société, qu'est-ce qui compte? C'est uniquement ça, les jeux, le public, le fait d'être honoré, le fait d'être reconnu, c'est ce qui compte. Quand vous voyez des gens qui sont prêts à donner 98 000 euros, c'est-à-dire près de 90 SMIC, ce que vous allez gagner, vous, peut-être en 90 mois, ça ne fait pas combien d'années, lui il va gagner ça en un mois juste parce qu'il joue dans le stade. C'est-à-dire que si nous suivons cette société, ben nous allons avoir les valeurs de cette société. Et cette société ne pense pas une seconde à la mort. Je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, la dernière pub de... Subhanallah, on va parler que de dunya, subhanallah, mais il y a un intérêt quand même. La dernière pub de la sécurité routière sur les jeunes qui boivent de l'alcool. C'était très bien fait. On voit des jeunes qui boivent et puis il fait un accident, il meurt, sa maman, il vient, il reconnaît le corps, etc., etc. L'objectif, c'est quoi? C'est que les jeunes prennent conscience du danger de l'alcool. Subhanallah. Ce danger de l'alcool-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a expliqué depuis 1500 années. D'accord? Alors, mes chers frères, on ne va pas trop s'éparpiller, mais qu'on comprenne bien qu'on est là pour quelque chose. On est là pour quelque chose et qu'on ne peut pas se permettre de passer autant de temps dans des futilités. Qu'Allah nous accepte. Donc, on va brièvement commenter ces quelques versets, parce qu'on avait commencé il y a quelques semaines sur Fi Jannatin Aliya, hein, la description de la deuxième catégorie de personnes. On avait dit dans Hal Ataka Hadithul Ghashiya, dans la première partie, il y a la description de la scène de l'au-delà. Et puis il y a la première catégorie de personnes, les gens qui auront les visages humiliés, avec la description des punitions qu'ils vont subir dans l'au-delà, leur nourriture, leur boisson, etc., etc. La deuxième catégorie de personnes, ceux qui auront des visages épanouis. Les gens qui auront wujuhun yawma'idin na'ima, ils auront le visage épanoui et là, contents de leurs efforts. Et on avait dit que ça, c'était le verset, un des versets les plus importants. Lisa'iha radiya. Ces gens-là, le jour de Qiyamah, sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie dans l'obéissance d'Allah et leur sa'i, tout leur passage de ce dunya, toutes les actions qu'ils ont faites, c'est là qu'ils voient les récompenses, ils sont satisfaits de leur parcours. Ça, c'est la consécration pour le musulman. Le jour de Qiyamah, là, le musulman voit ses 60 années de salat accomplies en congrégation, ses 60 années de salat, de somme, de tilawat al-Qur'an, de zikrullah. S'il ne les voyait pas sur ce dunya, peut-être les gens disaient que vous êtes des fanatiques, ou passez votre temps à la mosquée, ou vous n'êtes pas adapté à votre société, etc., etc. Mais le jour de la résurrection, à ce moment précis, le musulman voit qu'est-ce qu'Allah lui donne maintenant comme récompense pour son sa'i, pour le parcours qu'il a fait. Certaines personnes font un parcours de l'autre sens. Ils recherchent que le plaisir des malades de dunya. Et ils auront leur ils verront le Sa'i également le jour de Qiyama. Mais ce musulman, quand il va voir ses récompenses, il sera heureux, لِسَعْيِهَا رَضِيَا, content de leurs efforts. Et on avait expliqué brièvement dans un haut jardin, فِي جَنَّةٍ عَالِيَا, on avait commencé un petit peu la description du paradis, on avait montré que on ne peut comparer les plaisirs de l'au-delà avec les plaisirs de ce monde, tout comme les punitions de l'au-delà ne peuvent être comparées avec les punitions de ce dunya. Alors il y a quelques versets de cette sourate qui expliquent comment sera le paradis. Ce n'est pas une description complète, mais quelques versets qui donnent une indication du paradis. Et c'est toujours des indices qu'Allah nous donne sur la description du paradis. Parce qu'aucun mot n'est assez fort, n'est assez significatif, les mots des êtres humains ne sont pas assez significatifs pour décrire quelque chose que l'esprit ne peut imaginer. Ça, c'est logique, ça. Si votre esprit ne peut imaginer quelque chose, vous ne pouvez donc trouver des mots pour décrire cette chose. Il y aura juste des images, des paraboles pour qu'on ait une idée, une conception de cette chose. Et parmi ces descriptions, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « La tasma'u fiha la'riya » où ils n'entendent aucune futilité. Le ulama, ils expliquent que dans le paradis, on va être très bref, on va pas faire long, 8h30, on va arrêter, Inch'Allah, que dans le paradis, on a la tranquillité, la quiétude extérieure, mais également intérieure. Dans le dunya, une personne peut avoir la quiétude extérieure. Mais la différence, ce sera quoi? Il y a deux points. Un, cette quiétude n'est pas parfaite. Deux, cette quiétude peut être perturbée. Et trois, cette quiétude n'est jamais illimitée. Vous ne pouvez pas être heureux tout le temps. Vous pouvez être malade, vous arrivez quelque chose, votre enfant peut tomber malade, peut arriver un accident ou autre chose. Donc, il n'y a pas de personne heureuse en permanence et toujours dans ce dunya. D'accord? Dans le akhirat, c'est la joie, la quiétude, la tranquillité du cœur extérieur, avec tous les bienfaits qu'il y a qu'on va expliquer, mais également la tranquillité intérieure. Ce qui n'existe pas dans ce dunya. Je peux être immensément riche, mais je peux avoir de la haine, de la rancune dans mon cœur. Je suis très riche, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'un homme peut souhaiter. Mais il suffit que je vois quelqu'un qui m'énerve ou quelqu'un qui me brûle la priorité ou n'importe quoi qui fait que dans mon cœur, je ressens quelque chose. Et qui va atténuer, même si je suis dans un château, mais quand je repense à cette personne qui m'a fait ça ou cette personne qui m'a insulté, m'a dit telle chose, hein, ça brise un peu ce bonheur. Tandis que dans le paradis, on n'entend aucune parole futile et donc aucune parole qui est mauvaise. Et les ulama, ils expliquent que dans le paradis, Allah Azza wa Jal aura déjà purifié le cœur de chaque mu'min. C'est-à-dire que toutes les choses, vous savez, dans le cœur de l'être humain, il y a des défauts, la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, tout ça. Ça fait besoin de faire la purification intérieure. Mais, et ça c'est des choses qui sont tabi'i, qui sont innées dans chaque homme, quel que soit le degré de foi ou de religion ou de science. À l'exception de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait subi l'opération de la poitrine, et tout ce qu'il y avait comme sang noir dans le cœur de l'homme est sorti. Notre prophète était un homme parfait, aucun défaut, parce qu'il a subi l'opération de la poitrine, ce qui n'est pas le cas pour les autres insans. Dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal aura enlevé tout ce qui est mauvais du cœur de l'homme. Comme Allah dit au Coran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. En ce sens, je n'ai pas bien écrit la traduction, que ce verset explique que Allah Ta'ala aura enlevé de leur cœur toutes les haines, toutes les mauvais sentiments qui peuvent habiter, le cœur d'un homme. Et ils auront le sentiment de fraternité et ils seront allongés sur des lits, sur des divans, face et se rencontreront. Bref, ça veut dire que dans l'au-delà, là, il n'y aura plus de jalousie. Même si nous voyons notre frère, notre cousin, notre papa ou notre prochain qui a un degré supérieur à nous dans le Jannat, mais en aucun cas on ne ressentira de la jalousie. Ce qui n'est pas le cas pour ce dunya, ça c'est sûr. Vous avez acheté la plus belle des voitures, si vous voyez votre voisin qui a pris la même chose, mais lui il a pris avec intérieur cuir, boîte auto, avec toit ouvrant, avec l'option au-dessus, ah! D'accord ? C'est-à-dire que dans notre cœur, même si on est dans des bienfaits, il suffit de voir quelqu'un qui a un peu plus de bienfaits pour que la jalousie commence à naître dans le cœur. Et ça fait partie des faiblesses de l'être humain. D'accord ? Mais dans le akhirat, les cœurs seront apaisés. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura rien de mauvais les gens se fréquenteront, se côtoieront comme des frères. Et les gens du paradis se rendront visite, ils vont s'allonger, ils vont discuter, ils vont parler hein, des choses de ce qui existait de ce dunya, mais il n'y aura plus de haine. Même si dans ce monde, on avait des problèmes avec quelqu'un. J'avais des problèmes avec mon beau-frère, avec mon neveu, avec mon tonton, avec je ne sais pas qui. D'accord ? Mais dans le akhira, toutes ces tensions-là seront complètement oubliées. On n'y pensera même plus. Parce qu'Allah Ta'ala aura enlevé toutes les mauvaises choses qu'il y a, qui existent dans le cœur, de l'être humain. Donc, il y a la paix extérieure avec les bienfaits, mais il y a également la paix intérieure. Parce que dans ce dunya, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais heureux. Et dans le akhira, les ulama expliquent yulhimuna at-tasbih kama yulhimuna an-nafs. C'est-à-dire que, en ce sens, les gens ils vont lier le tasbih comme nous respirons. La seule chose qu'on entend de le jannat, c'est quoi? C'est les louanges d'Allah, les subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. On entendra ça en permanence prononcer de la bouche bénie des gens du paradis. Et le ulama explique, c'est pas des tasbih taklif. C'est pas des tasbih comme de ce dunya on fait tasbih pour avoir des récompenses. Non, c'est ni un ordre, ni une exigence de la part d'Allah. Non, c'est la joie qui habite le cœur de l'homme. Qu'il est tellement heureux, l'homme du paradis, que tout ce qui sort de sa bouche, c'est des remerciements à Allah. Il n'arrête pas de remercier Allah pour tout ce qu'il voit. On a dit que le paradis, c'est bonheur. Le bonheur augmente de seconde en seconde. C'est de surprise en surprise pour l'éternité. Et à chaque fois, il finit par voir quelque chose, il dira Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ça, c'est les paroles qui sortent en permanence de la bouche des gens du paradis. C'est la seule chose qu'on entend, Allahumma ja'alna minhum. Et toutes les mauvaises paroles, ça, jamais de la vie, seront prononcées dans le paradis parce qu'il n'y aura pas de contexte pour que quelqu'un soit frustré, en colère, jaloux ou triste. Hada. On va aller un petit peu plus vite, Inch'Allah. Fiha aynun jariya. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla explique, là on va aller plus vite, que là, il y aura une source coulante. Allah Azza wa Jalla explique que dans le paradis, il y aura des sources. Et dans d'autres versets du Coran, on voit des Muhammad fi anharum min ma'in ghayri asin wa anharum min laban illam yataghayyar ta'mu, etc. Il y a des fleuves de l'eau normale, il y a des fleuves de lait, des fleuves de vin, mais c'est pas un vin comme de ce dunya bien sûr, et des fleuves qui sont faits uniquement de miel safi, de miel pur. Donc à travers le commentaire du mot ayn qui veut dire donc les fleuves, nous voyons déjà le décalage qu'il y a entre le langage humain et leur connotation sur le plan du paradis. Quand Allah il parle de fleuve, nous on a une idée, c'est quoi le fleuve? Quand je dis fleuve, je pense au fleuve, je ne sais pas, un fleuve que vous voyez n'importe où, hein, Al-Boua ou n'importe quoi, des trucs, bref, d'accord? Mais quand on utilise le même mot pour le akhira, c'est autre chose. Est-ce que vous pouvez, une seconde, vous imaginer un fleuve de miel? On ne peut pas. Comme je dis à mes élèves, quand on explique ça aux enfants à madrasa, elle dit, allez à Adia ou Leader Prince, cassez tous les bocaux de miel et regardez tout le miel couler. Mais même ça, vous n'aurez pas une idée c'est quoi un fleuve de miel. Et puis vous aurez des problèmes, mais ce n'est pas moi qui vous ai dit de faire. D'accord? On ne peut pas imaginer quelle est la description, quel est le niveau de ni'mat dans le paradis. Et cela est suffisant pour qu'on réalise la différence qu'il y a entre les mots qu'on utilise et leur connotation qu'il y a dans le djinn. C'est un petit peu compliqué ça, mais qu'on comprenne bien. Hein, la puissance des ni'mat du paradis. Fiha aynun jariya. Les ulama disent que jariya coulant, ça veut dire tajri haythu arada ahluha. La tahtaju ila hufri saqiyatin. C'est-à-dire que le fleuve coulera où la personne voudra. Et dans chaque bienfait, on va voir que ces bienfaits seront à portée de main. C'est-à-dire que ce n'est pas que le fleuve est un endroit. Il faut se lever, il faut mettre ses chaussures, il faut marcher là-bas pour apprendre. Non. C'est-à-dire que les bienfaits sont littéralement à nos pieds. Les bienfaits arrivent auprès de chaque personne du paradis quand il en vit et de la manière qu'il le souhaite. Fiha aynun jariya. Fiha sururum marfu'al. Là, des divans élevés. Donc des divans, on pourrait appeler ça comme des canapés qui sont élevés. Pour que les personnes s'assoient. Et on a vu tout à l'heure, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Les gens du paradis seront accoudés sur les divans avec leurs épouses, avec leur famille, à l'ombre. Et dans d'autres hadiths, il explique que les gens du paradis vont converser. Ils auront des conversations et ils parleront du dunya. Quelle était la difficulté de ce dunya et comment Allah nous a honorés maintenant, comment Allah nous a récompensés. Nous-mêmes de ce dunya, quand on dit que vous êtes d'un endroit où il y a dans la nature, sous pied de bois, sous les fils à eau, vous êtes allongé à l'ombre. Ça fait plaisir, ça. Vous entendez le bruit des fils à eau, vous êtes à l'ombre, vous êtes tranquille. C'est quelque chose qu'un homme, un être humain aime. Maintenant, imaginez la même scène, mais sous un arbre du paradis, avec l'air du paradis, avec la terre, le turba du paradis, avec les bienfaits du jannat, c'est quelque chose d'un autre niveau. Alors, lorsqu'on parle de surur, des divans, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un salon de la maison où il y a des articles de luxe, mais le top du luxe. Regardez les canapés les plus chers qui existent. Dès récemment, j'étais parti une fois pour apprendre quelque chose. J'ai vu une marque, on ne dira pas le nom, hein, les canapés avec, c'est le maximum de confort fabriqué en Suisse. J'étais intéressé, j'ai dit, combien ça coûte? 2000 euros minimum. Allahu Akbar. Un fauteuil. 2000 euros, c'est le plus bas de gamme. Ça peut monter jusqu'à 4000 euros. Juste pour pouvoir s'allonger et étendre ses deux pieds. D'accord? Imaginez ça. Et ça, c'est rien, mais c'est incomparable. C'est blasphématoire de comparer ça avec les divans, les canapés qu'il y aura dans le Jannah. Mais juste pour qu'on ait une idée, est-ce que si quelqu'un réunit les plus beaux coussins, les plus beaux tapis, les plus beaux, tout ce qu'il y a de plus luxueux fabriqué dans les pays les plus riches du monde, quel genre de soirée cette personne va passer dans ce luxe, dans ce confort total? Mais ça, c'est une brindille incomparable avec le ni'amat qu'Allah Ta'ala décrit, annonce dans le Coran à propos du paradis. On va aller un peu plus vite pour terminer ces descriptions. Wa akwabun mawdu'an, et des coupes posées, c'est-à-dire des coupes avec tous les boissons qu'il y a dans le paradis qui seront posées. Et là, les ulama disent également, laysat marfu'atan 'anhum, seront pas un endroit ni élevé ni éloigné. Ces coupes avec ces boissons seront là également à portée de main. La personne n'a pas d'effort à faire. Elle n'a pas, par exemple, descendre du salon, descendre du canapé, aller au frigidaire, aller prendre le jus ou le lait ou l'eau, etc. Non. Tout est à disposition. Ça, c'est la perfection dans les ni'amats du paradis. Et quand on parle tout à l'heure des gens, hein, les Ahlul Jannah, ils s'assoient sur le divan, ils parlent. D'accord? Donc, ça, c'est. Cela montre bien que les cœurs seront apaisés. Il n'y a pas de souci dans l'au-delà. Dans ce dunya, vous vous allongez un instant, vous commencez à penser, ah oui, demain, on a besoin de faire l'inventaire magasin. Ou alors, demain, on a tel client, il vient. Ou demain, il y a tel élève qui doit rendre sa copie, il y a telle copie à corriger, ou il y a tel... Des soucis. Vous ne pouvez pas vous allonger 10 minutes sans qu'il y ait des ficards, des soucis de ce dunya qui vous reviennent à l'esprit. Mais dans le delà, quand ces gens s'assoient sur des divans, sous l'ombre des arbres du paradis, ils n'ont aucun souci. Et ils n'ont pas non plus le stress de l'inactivité. Ça aussi, ça existe. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester sans rien faire. Par exemple, moi, si je vais en vacances, je tombe malade. Parce que être inactif, tourner, virer, tourner dans la maison comme ça, on n'a rien à faire, on s'ennuie. On s'ennuie, et là, on commence à penser plein de choses et tout. Bref, on tombe malade. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas rester inactifs. Hein, quand on n'a rien à faire, ben, on stresse, on angoisse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Mais ça aussi, il n'y a pas de le jannah. Quelqu'un peut s'allonger, basse. Il y a une telle quiétude que la personne ne pense à rien. Ne pense à aucun souci, bien sûr, mais elle n'a pas le stress de l'inactivité ou le souci ou rien du tout. Ça, c'est des situations qui sont uniques, qui sont spécifiques au Jannah, au paradis. Et on terminera avec ça. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا, et des coussins rangés, d'accord. Et là aussi, hein, j'ai quelqu'un de ma famille qui était parti dans l'hôtel le plus luxueux du monde, apparemment. C'est le seul 6 étoiles qu'il y a au monde, c'est à Dubaï. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, Burj Al Arab, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il m'a dit, maintenant, il y avait un coussin, un oreiller pour s'allonger dessus. Il a dit qu'il m'explique le sifa de cet oreiller. Il m'a fait un bayan dessus. Vous mettez votre main, l'empreinte, il reste, quand vous levez, ça machin, c'est douillet, c'est comme ci, c'est comme ça. Que, incroyable, c'est quelle jouissance vous avez quand vous posez votre tête sur cet oreiller. Tellement expliqué que vous avez envie de prendre un billet tout de suite, aller voir, commencer. Mais même, imaginez, ça doit être le coussin le plus cher au monde, puisque c'est dans le meilleur hôtel du monde, c'est une brindille par rapport à ce qu'on vient de dire. Allah Ta'ala décrit ce qu'on vient de dire, quand on parle des coussins qui sont rangés, des coussins qui sont dans le Jannah. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا, et enfin, وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا, et des tapis étalés. Les ulama disent qu'il y aura des tapis du paradis étalés à perte de vue, partout. D'accord? Et de ce dunya, pour qu'on se fasse une idée, un jour aller dans une salle d'exposition où on vend les tapis les plus chers au monde. Les tapis de soie qui viennent d'Iran, ou les tapis qui sont faits main, qui viennent d'Afghanistan, je ne sais pas de quel pays, ça coûte 2 ou 3 000 euros un tapis. D'accord? Imaginez quelqu'un, il a 100 tapis comme ça chez lui. Est-ce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas content, il ne va pas marcher pieds nus dessus, il va marcher pieds nus, il sera heureux, il va dormir dessus. Mais ça, c'est rien que vous ayez les tapis persans ou les tapis iraniens, d'accord? Et vous avez les coussins de Dubaï, vous avez le salon stressless de Suisse, vous avez le canapé, je ne sais pas quel, mais vous avez tout ça. On vous donne ça pour une nuit, imaginez votre bonheur, mais c'est rien par rapport au bonheur éternel et aux bienfaits qui sont en progression en permanence dans le Jannat. Mes chers frères, ça ce sont quelques descriptions, on va s'arrêter, quelques descriptions des bienfaits du paradis, mais les mots ne suffisent pas. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Et ce qu'aucun œil ne pourrait supporter également. Ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Et cela, Allah Ta'ala l'accorde pour qui? Accorde à quel genre de personne? Il faut pas faire quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de passer les années qu'Allah nous a accordées, le temps qui est un dépôt pour nous, un amanat, le passer de l'obéissance d'Allah. Je fais ce qu'Allah m'a demandé et je m'éloigne de tout ce qu'Allah a rendu haram et je fais passer ce message à mon prochain. Qu'Allah nous accepte, Allah nous choisisse, mes chers frères, pour faire partie de ces gens du paradis et qu'un jour de le Jannah, nous serons sur ces divans avec ces coussins, avec ces coupes, avec ces ruisseaux allongés et on se souviendra du jour au mois de juin, le 11 juin 2010, où on expliquait justement, Wallahi, mes chers frères, ça c'est réalité ça. Je ne vous raconte pas des histoires, des contes de Grimm là. Ça c'est des réalités. Inch'Allah, les gens du paradis, ils se souviendront de ce dunya. Et Inch'Allah, les 20 personnes, ou 20, je ne sais pas combien il y a ici ce soir, on se souviendra, Inch'Allah, de cette soirée où on a décrit les bienfaits du paradis et que maintenant, Inch'Allah, on y est, on est en train de jouir de ces bienfaits qu'Allah nous a accordés. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de vivre selon ses commandements, de respecter ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. La prochaine fois, on va voir une autre catégorie de discours dans ce même sourate. C'est lorsqu'Allah interpelle l'homme sur la contemplation de sa création. Ça, c'est magnifique, ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas regardé comment Allah a créé les chameaux, comment Allah a élevé le ciel, comment Allah a fait les montagnes, etc. C'est ce qu'on appelle at-tadabbur fi ayatillah, réfléchir, at-tafakkur fi ayatillah, réfléchir sur la création d'Allah pour se rendre compte de la grandeur du Créateur. On verra ça la prochaine fois. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.